100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
Bonjour à tous. Test politique grandeur nature aujourd'hui au Royaume-Uni, à quelques semaines des élections européennes désormais très probables. Les électeurs anglais et nord-irlandais sont appelés aux urnes pour élire maires et conseillers municipaux. Autant dire que le Brexit est dans tous les esprits, même s'il a été gommé des tracts. Reportage signé Marie Billon.
Quoi qu'il arrive, ne mentionnez pas le Brexit. Voilà la consigne qui aurait été donnée aux candidats et militants qui font campagne pour les élections locales. Quant à ceux qui se présentent aux européennes dans 21 jours, faites profil bas pour l'instant. Bref, les Tories veulent faire comme s'il était possible de ne pas voir l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Alors ces élections locales peuvent-elles se jouer sur des enjeux locaux ? Pour Martin Dew, qui a voté conservateur toute sa vie, aucune chance.
I'm going to make Brexit my raison d'être for voting.
Le Brexit sera ma raison d'être pour ces élections. C'est le gouvernement à majorité conservatrice mené par Theresa May qui me force à ça. Et je ne suis pas le seul. S'ils ne veulent pas du Brexit, alors nous allons faire du Brexit le sujet principal à tous les niveaux. Je vais donc voter pour n'importe qui tant qu'ils auront soutenu le Brexit.
Martin vit à Henley-on-Thames, petite ville cossue au bord de la Tamise, détenue par les Tories pour l'instant. D'ardents pro-Brexit comme le conservateur Jacob Rees-Mogg font le tour des médias pour implorer les électeurs de penser local. Le député était sur la radio LBC.
Ring Rees-Mogg. Put your calls to Jacob Rees-Mogg now.
People. J'espère qu'en se rendant au bureau de vote, les gens n'oublieront pas qu'il est question ici d'enjeux comme leur taxe locale ou le ramassage des poubelles. Ce n'est pas le Brexit. Je comprends que les Britanniques en aient assez des Tories à cause du Brexit. On n'a personne aux commandes, on a été indécis et faibles, on s'est fait mener par le bout du nez par Bruxelles, mais ce n'est pas ce dont il s'agit lors de ces élections.
La question n'est pas si le parti va perdre des sièges, mais combien, selon Tony Travers. Il est professeur de sciences politique à la London School of Economics, analyse faite à Londres lors d'une conférence de presse sur les élections locales.
Lors des élections locales, les questions nationales jouent toujours un rôle. L'avenir ne paraît pas rose pour les conservateurs, selon les derniers sondages. Mais la question du Brexit pourrait bien faire du tort aux Tories et aux Labour aussi.
Les sondages prédisent une sévère défaite des conservateurs. Ils pourraient perdre entre 500 et 1000 sièges, mais les travaillistes ne bénéficieraient que très peu de ce recul, 300 sièges selon les estimations. Le UKIP, lui, ne conteste que 16% des sièges en jeu, donc ses résultats ne seront pas représentatifs. En revanche, ce qui va compter pour Tony Travers, c'est le nombre d'électeurs qui se déplacent.
La participation dans les élections locales tourne toujours autour de 35, 36, 37%. Si les conservateurs donnent l'impression d'être démoralisés, il est possible que les gens restent chez eux, et cela ferait chuter la participation. Ou alors, tout au contraire, ça peut galvaniser les électeurs.
Les déçus des Tories pourraient se déplacer et ceux des travaillistes bouter les urnes. Ce serait à cause de sa position un peu entre deux chaises sur le Brexit. Le Labour a confirmé cette semaine qu'il ne soutiendrait un second référendum qu'à certaines conditions, afin de ne pas déplaire aux pro-Brexit travaillistes du Nord et de ne pas trop enrager les pro-européens du sud de l'Angleterre. Alors l'urgence, c'est de déplacer le débat loin du Brexit. Ce que fait le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, dans cette vidéo de campagne.
C'est l'opportunité de dire au gouvernement que les 1,3 milliard de livres sterling de coupes dans les budgets des autorités locales l'an prochain seront dommageables pour nos communautés à travers tout le pays. Élire des conseillers municipaux travaillistes, c'est s'assurer qu'il y a quelqu'un pour résister, pour se battre pour que nos rues soient plus sûres, pour qu'il y ait plus de logements construits. C'est ce que le Labour fait au niveau local et c'est ce qu'un gouvernement travailliste fera dès que nous aurons droit à des élections générales.
Une petite musique pour adoucir les mœurs en fond et c'est bienvenu. Parce que pendant que les politiques font semblant de croire que le Brexit peut être oublié, le temps de ce scrutin local, la réalité sur le terrain est tout autre. Les Britanniques en veulent à leur classe dirigeante, de droite comme de gauche. Et la campagne a été émaillée d'incidents. Dans la ville de Colchester, un candidat conservateur aurait reçu un coup de poing, un autre aurait failli être étranglé dans le Gloucestershire. À Coventry, ce sont des UKIPers qui auraient reçu une avalanche d'œufs sur la tête. À Gretchen Dartmouth, un travailliste aurait lui reçu une droite. Résultat, les tracts resteraient à ramasser la poussière dans les QG de campagne, surtout côté Tories, par manque de volontaires.
Et pendant ce temps, les eurodéputés britanniques qui terminent leur mandat ne savent plus trop s'il faut partir ou rester. Dans les couloirs du Parlement à Bruxelles, Alice de Baptiste de la RTBF a trouvé des parlementaires européens très perplexes. Déménagement ou réinstallation, on ne sait plus trop.
Dans les couloirs du Parlement européen, des caisses en carton s'empilent. Il y en a toute une pile devant le bureau de l'eurodéputé travailliste britannique Richard Corbett. Cela devait être la dernière fois. La dernière fois qu'on apercevrait des boîtes appartenant à des députés britanniques. Mais en demandant un nouveau report, la première ministre Theresa May a été tenue de convoquer des élections européennes au Royaume-Uni. Une opportunité que compte bien saisir Richard Corbett.
Je vais me présenter, mon parti va présenter des candidats. D'ailleurs, tous les partis vont... Ils préparent déjà leurs candidats pour les élections européennes. On sait depuis un certain temps que c'était une possibilité. Maintenant, c'est devenu une probabilité.
Il a fallu agir dans l'urgence.
Oui, alors on doit choisir nos candidats par une procédure urgente. On s'est déjà mis d'accord au sein du parti que les députés sortants qui veulent se représenter vont mener nos listes.
Richard Corbett s'apprête à partir la semaine prochaine faire du porte-à-porte dans sa région du Yorkshire. Et il ne sera pas le seul à se lancer dans cette potentielle campagne. Six étages plus bas, nous retrouvons le bureau d'Alyn Smith, eurodéputé vert du Parti national écossais. Il a déposé sa candidature pour ce qui devrait être la campagne la plus étrange de sa carrière.
Rien n'est clair maintenant, je dois dire, rien n'est clair, c'est absolument incroyable, j'ai jamais vu les situations comme maintenant. C'est sûrement une campagne bizarre, mais nous sommes prêts et notre proposition pro-européenne et aussi pour l'indépendance est très populaire maintenant.
Pour Alyn Smith, l'organisation de ces élections européennes au Royaume-Uni, c'est une petite victoire, un sursis face au Brexit.
La date pour beaucoup de gens était le 29 mars. Alors nous avons déjà un petit victoire contre ça. Et si c'est un délai, puis un délai, puis un délai, nous avons la chance de changer les météos politiques en Angleterre. Il y a aussi la possibilité d'encore un référendum sur la question européenne pour renverser Brexit.
Pour d'autres, c'est une très mauvaise nouvelle. Dans le bâtiment en face, l'eurodéputé conservateur Richard Dalton ne voit pas ces événements d'un bon œil.
Personne d'entre nous ne voulait des élections, pour être honnête. Cela fait trois ans que le Royaume-Uni a voté pour sortir. Je ne pense pas que ce soit bon pour nous d'avoir des élections maintenant, particulièrement parce que les nouveaux députés ne siégeront peut-être jamais si le pays quitte l'UE avant juin. Et s'ils siègent, ce serait pour une période assez courte, seulement quelques mois.
Reste à savoir si ces élections européennes auront bien lieu. Le Royaume-Uni a fixé au 23 mai la date des élections européennes, tout en espérant ne pas avoir à les organiser.
Un an et trois mois de prison pour avoir signé un appel pour la paix, tel est le sort de l'universitaire turc Füsun Üstel qui attend son incarcération d'un jour à l'autre. Et son cas n'est pas isolé, comme elle des centaines d'universitaires parmi les plus brillants du pays ont été condamnés pour, je cite, « soutien à une organisation terroriste, une vague répressive sans précédent qui ne les a pas encore réduits au silence ». Reportage à Istanbul, signé Anandlauer.
Ils sont venus par dizaines, enseignants, étudiants, militants des droits de l'homme. Derrière son pupitre, Füsun Üstel sourit à l'un et à l'autre, au visage familier qu'elle risque de ne plus voir pendant de longs mois. En janvier 2016, comme 2211 collègues, cette historienne renommée avait signé une pétition réclamant la fin des violences dans le sud-est kurde. Les combats faisaient rage alors entre forces de sécurité et membres du Parti des travailleurs du Kurdistan. Füsun Üstel a écopé de 15 mois de prison pour propagande terroriste. Elle n'est pas la seule condamnée, mais elle est la première à avoir épuisé les recours juridiques. Ce jour-là, elle livre à l'auditoire un dernier cours magistral sur l'un de ses sujets de recherche, le bon citoyen turc à travers les époques. un sujet qu'elle lie à sa condamnation.
Le tribunal a estimé que je n'éprouvais pas de regrets et que rien ne garantissait que je ne commettrais pas le même crime. Ça en dit long sur le système actuel. Alors oui, on nous condamne, mais je pense que nous ne devons pas nous considérer ainsi. Aujourd'hui, c'est à nous de redéfinir la figure du citoyen. Pas un citoyen dépressif qui se tient à l'écart des problèmes de la société. Non, notre seule issue, c'est de continuer à produire du savoir et à le partager. C'est comme ça que nous traverserons ces épreuves.
Depuis le début de son procès, Füsun Ustel refuse de s'exprimer dans les médias. Sa collègue Beyza Üstün avait également signé cet appel pour la paix. Elle aussi a perdu son poste à l'université, elle aussi risque la prison.
Cette guerre était un projet du président Tayyip Erdogan et de son équipe. C'est aussi une tentative d'imposer en Turquie une pensée unique. En signant ce très court texte, tous ces universitaires ont dit, ensemble mais sans forcément se connaître, quelque chose de très important. Ils ont dit « nous voulons la paix ». Et cela, le pouvoir ne l'a pas accepté.
À ce jour, 691 universitaires turcs affrontent des poursuites pénales. 184 d'entre eux ont déjà été condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, certains avec sursis, d'autres non. Comme Füsun Ustel, Tarsin Yeşildere, président de l'association des enseignants du supérieur, a écopé de 15 mois. Contrairement à elle, il bénéficie d'un sursis.
L'acte d'accusation est exactement le même pour tous. Pourtant, les tribunaux rendent des verdicts très différents. Certains estiment par exemple que présider tel syndicat ou avoir écrit tel article est une circonstance aggravante. Tout cela pour alourdir les peines. C'est parfaitement illégal. C'est la preuve que ces procès sont politiques et que nous subissons le régime d'un seul homme.
Selon Erol Enderoğlu, représentant local de l'ONG Reporters sans frontières, ces verdicts si différents sont un signe de ce qu'il appelle la destruction du système judiciaire turc. Les magistrats ont perdu toute indépendance. Depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, près de 4000 ont eux-mêmes été limogés, accusés de soutenir un groupe terroriste.
C'est un système judiciaire entièrement cadenassé et qui a reçu des instructions assez claires. Donc c'est une justice qui a peu de marge de manœuvre et qui ne doit qu'exécuter. La haute justice n'est pas indépendante. Le ministre de la Justice lui-même siège au Conseil national de la magistrature. C'est son bureaucrate qui tient les dossiers des magistrats, un par un.
Aussi implacable soit-elle, cette répression ne peut pas durer, estime l'universitaire Beyza Üstün. Elle rappelle que le président Recep Tayyip Erdogan a perdu les plus grandes villes turques, Istanbul et Ankara, aux élections municipales du 31 mars.
Ce système répressif est en train de s'essouffler. Il subit désormais des revers politiques. Aucun pouvoir ne peut se maintenir indéfiniment en menaçant son peuple. C'est pour cela que les condamnations que nous recevons ou que nous allons recevoir n'ont aucune importance pour nous. Nous continuons de réclamer la paix, nous continuerons de lutter tant que tous nos collègues ne seront pas sortis de prison. Et nous savons qu'à la fin, nous gagnerons.
Son collègue Tarsin Yeşildere se dit quant à lui convaincu de pouvoir réclamer réparation un jour.
Ce n'est pas seulement un processus judiciaire. De jeunes et brillants universitaires ont été arrachés à leurs universités et à leurs étudiants. Certains ont vu leurs passeports confisqués. L'un de nos collègues s'est suicidé. Il faudra qu'un jour ceux qui sont responsables rendent des comptes devant les tribunaux. Quant à nous, nous sommes confiants dans le fait que la Cour européenne des droits de l'homme nous donnera raison en dernier recours.
En attendant, les universitaires pour la paix, ainsi qu'on les surnomme, auront plus que jamais besoin de se serrer les coudes. Comme Füsun Ustel, des dizaines d'entre eux risquent un emprisonnement au cours des prochains mois.
We'll be proud to say, I am an European.
Le président français l'a annoncé la semaine dernière et c'est une des réponses à la crise des Gilets jaunes. L'ENA, l'École nationale d'administration, cette école de l'élite créée il y a 75 ans, va être supprimée. L'ENA comme symbole de l'entre-soi et du pouvoir non partagé. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors supprimer l'ENA, est-ce si révolutionnaire ?
L'ENA n'est que la partie émergée de l'iceberg du système administratif français. Certes, moins de 20% des élèves de l'école sont issus des classes populaires, ce qui peut en partie s'expliquer par le fait que le concours d'entrée est hyper sélectif, environ 1500 candidats pour une centaine de places seulement, et exige, outre un premier diplôme universitaire pour le concours externe, une préparation extrêmement poussée, passant par des prépas coûteuses. Cela dit, le cursus de 2 ans n'est pas seulement gratuit, mais il est rémunéré 1 700 € par mois. Quant à l'enseignement dispensé, il est pratique et vise à développer la réactivité et l'initiative, ce qui paraît contredire l'idée répandue d'un formatage idéologique. Ce qui est vrai, c'est que l'ENA coûte cher aux contribuables, 84 000 € par étudiant et par an, et globalement 40 millions annuels.
Alors pourquoi parler d'une haute fonction publique élitiste ?
À cause du mode d'organisation et de recrutement des hauts fonctionnaires. Depuis la Révolution ou l'Empire, voire le règne de Louis XV, différents métiers nécessaires à l'administration se sont organisés en corps, regroupant conseillers, inspecteurs ou ingénieurs formés dans des écoles particulières. Il y a ainsi des grands corps administratifs comme l'inspection des finances, le Conseil d'État, la Cour des comptes, dont le vivier est en partie constitué par les diplômés sortis dans les mieux classés de l'ENA. Il y a aussi les grands corps techniques, les mines, les ponts et chaussées, les administrateurs de l'INSEE, formés dans des écoles spécifiques, mais également issus pour beaucoup de polytechniques ou des écoles normales supérieures. De plus, l'appartenance à un même corps crée des solidarités propices à des affectations valorisantes. C'est ce système qui produit de l'élitisme et que Macron veut démanteler.
Et on est donc en plein dans l'exception française, Daniel.
Ah, totalement, dans la mesure où aucun autre pays ne connaît le système centralisé et interventionniste d'un État français colbertiste depuis 3 siècles et demi. Ailleurs en Europe, cette notion d'élite administrative n'a pas cours, car les hauts fonctionnaires sont issus de formations diversifiées et sont désignés en fonction de leur habileté à remplir une fonction précise. Conséquence, ils ne se serrent pas les coudes et ne sont pas interchangeables. Ils n'ont donc pas le sentiment d'appartenir à une même élite. Pour autant, plusieurs pays ont des écoles d'administration du type ENA.
Et on peut voir lesquelles ?
En Espagne, il y a l'Institut National de l'Administration Publique qui est chargé de la formation initiale ou permanente des fonctionnaires et organise des concours pour intégrer telle ou telle administration. Donc, pas de concours d'entrée à l'école, comme à l'ENA, mais une préparation en vue de concours administratifs. Système un peu différent en Italie, où il faut d'abord réussir son concours administratif avant d'intégrer l'école supérieure d'administration publique. Quant à l'Allemagne, son académie fédérale d'administration publique est réservée aux fonctionnaires déjà en poste pour leur permettre d'accéder à de plus hautes responsabilités. La Belgique dispose d'un institut équivalent. En aucun cas, ces instituts n'ont vocation, comme l'ENA ou Polytechnique, à former une aristocratie de dirigeants.
Et il n'y a pas d'école spécifique ailleurs dans d'autres pays ?
Le recrutement des hauts fonctionnaires, à l'instar des cadres d'entreprise, se fait aux Pays-Bas par poste, en fonction des compétences. Mais les candidats peuvent éventuellement postuler et se former dans le cadre d'un service général d'administration. Le Royaume-Uni recrute également par poste sous le contrôle de commissaires à la fonction publique indépendants qui veillent à l'équité et à la transparence de la nomination. Pas d'école d'administration outre-Manche, mais l'on constate que la moitié des très hauts fonctionnaires est issue des universités d'Oxford et de Cambridge. Une pointe d'élitisme donc que l'on ne retrouve pas en Allemagne, puisque les recrutements de hauts fonctionnaires se font par ministère via des examens sélectifs de candidats issus de l'université. Bien sûr, comme partout en Europe, des masters en administration publique sont apparus outre-Rhin à l'université, tandis que des instituts privés offrent un enseignement en politique publique.
Pour conclure, Daniel, on peut donc dire une très grande spécificité française ?
Oui, contrairement aux Français, les plus hauts fonctionnaires européens doivent suivre de longs cursus hiérarchiques. Ils sont aussi moins mobiles et moins interchangeables, car leurs compétences sont différenciées et ils ne connaissent pas cet esprit de corps propice à une collusion entre gouvernement et grandes entreprises. Enfin, auréolés du prestige de leurs grandes écoles, de l'autorité qu'elles leur confèrent et de la solidarité qu'elles engendrent, seuls les hauts fonctionnaires français parviennent à imposer leur vue aux hommes politiques élus démocratiquement.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
100% d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.